Évangile selon Matthieu, chapitre 14. Mort de Jean le baptiseur, versets 1 à 12.
Lecture de la parole. En ce temps-là, Hérode le tétrarque ouït parler de la renommée de Jésus. Et il dit à ses serviteurs, « C'est Jean le baptiseur, il est ressuscité des morts, et c'est pourquoi les miracles s'opèrent par lui. » Car Hérode, ayant fait prendre Jean, l'avait fait lier et mettre en prison, à cause d'Hérodias, la femme de Philippe son frère. Car Jean lui disait, il ne t'est pas permis de la voir. Et tout en ayant le désir de le faire mourir, il craignait la foule, parce qu'il le tenait pour prophète. Mais lorsqu'on célébrait l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa devant tous, et plut à Hérode. Sur quoi il lui promit avec serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Et elle, poussée par sa mère, « Donne-moi ici, dit-elle, dans un plat, la tête de Jean le baptiseur. » Et le roi en fut affligé. Mais, à cause des serments et de ceux qui étaient à table avec lui, il donna l'ordre qu'on la lui donna. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Et sa tête fut apportée dans un plat, et donnée à la jeune fille, et elle la porta à sa mère. Et ses disciples vinrent et enlevèrent le corps et l'ensevelirent, et s'en allant, ils rapportèrent à Jésus ce qui était arrivé.
Lecture de l'étude. Au chapitre 11, versets 2 à 6, nous avons vu Jean le baptiseur en prison. Ici, nous apprenons la cause de son emprisonnement. Hérode, le prince qui gouvernait en Galilée, tout en éprouvant un certain respect pour Jean, l'avait fait emprisonner. Jean lui avait dit, en effet, qu'il ne devait pas avoir pour femme Hérodias, sa belle-sœur. À cause de cela, celle-ci le haïssait et aurait aimé qu'Hérode le fît mourir. Mais le roi craignait le peuple qui tenait Jean pour un prophète, et lui-même reconnaissait qu'il était un homme juste et saint. Marc 6, verset 20.
Hérode craignait Jean, le sachant homme juste et saint, et il le gardait soigneusement. Et lorsqu'il l'avait entendu, il faisait beaucoup de choses et il l'écoutait volontiers.
Toutefois, la haine d'Hérodias allait bientôt triompher de ses considérations. Hérode célébrait l'anniversaire de sa naissance. Pendant qu'il était à table, entourée de ses convives, la fille d'Hérodias entra et dansa devant tous. Elle plut au roi qui lui promit, avec serment, de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Cette jeune fille alla prendre conseil de sa mère pour présenter sa requête au roi. Poursuivie par le désir de se débarrasser entièrement de l'homme qui avait osé blâmer son inconduite, la malheureuse femme incita sa fille à demander la tête de Jean. Elle entra donc dans la salle du festin et dit au roi, « Donne-moi ici, dans un plat, la tête de Jean le baptiseur. » Hérode en fut affligé, mais, ne voulant pas manquer de parole, il fit violence à sa conscience et donna l'ordre de satisfaire à cette demande sanguinaire. Ainsi, un crime abominable vint s'ajouter à une vie de corruption. Un serviteur d'Hérode alla décapiter Jean dans la prison, et on apporta sur un plat la tête du précurseur du Messie à la jeune fille qui la remit à sa mère. Quelle triste illustration des paroles que nous lisons en Jean 3, verset 19-20. Les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait des choses mauvaises est la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprises. La lumière de Dieu, par le moyen de Jean, avait lui sur la conscience d'Hérode et d'Hérodias, personnages dont le rang dans la société paraissait les placer au-dessus de toute critique et leur permettre de donner libre cours à leurs passions infâmes. Mais au-dessus d'eux, celui qu'ils oubliaient avait envoyé Jean le baptiseur, dont la vie sainte et juste l'autorisait à accomplir sa mission en dénonçant le mal où qu'il se trouvât. Il invitait à la repentance et préparait ainsi le chemin du Seigneur qui apportait la grâce à tous les pécheurs qui recevaient son témoignage. Luc 3, versets 7 à 15.
Il disait donc aux foules qui sortaient pour être baptisées par lui, « Race de vipères, qui vous a averti de fuir la colère qui vient ? Produisez donc des fruits qui conviennent à la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père », car je vous dis que Dieu peut, de ses pierres, susciter des enfants à Abraham, et déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Et les foules l'interrogèrent, disant, « Que faut-il donc que nous fassions ?» Et répondant, il leur dit, « Que celui qui a deux tuniques en donne une à celui qui n'en a point, et que celui qui a des vivres fasse de même. » Et des publicains vinrent aussi pour être baptisés, et ils lui dirent, « Maître, que faut-il que nous fassions ?» Et il leur dit, « Ne percevez rien au-delà de ce qui vous est ordonné. » Et des gens de guerre l'interrogèrent aussi, disant, « Et nous, que faut-il que nous fassions ?» Et il leur dit, « Ne commettez pas d'extorsion, ni n'accusez faussement personne, et contentez-vous de vos gages. » Et comme le peuple était dans l'attente, et que tous raisonnaient dans leur cœur à l'égard de Jean, si lui ne serait point le Christ, Jean répondit à tous, disant, « Moi je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, duquel je ne suis pas digne de délier la courroie des sandales. Lui vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. »
Cette lumière n'a fait que manifester la haine d'Hérodias. Elle voulut l'éteindre pour mieux satisfaire les goûts corrompus de sa propre nature à la faveur des ténèbres morales qu'elle avait choisies. Hérode, dont la conscience avait été atteinte dans une certaine mesure, n'avait aucune force. Il aimait le péché, et l'on est esclave de celui par qui on est vaincu, de Pierre 2, verset 19. Chef de sa maison, souverain au milieu de ses courtisans, il se laissa lier par une parole légère, parce qu'il était lui-même lié par le péché. Il ajouta ainsi la violence à la corruption, ces deux grands caractères du mal à son apogée au milieu des hommes. Genèse 6, verset 11.
Et la terre était corrompue devant Dieu, et la terre était pleine de violence.
Remarquons qu'il ne suffit pas d'écouter la parole, de reconnaître combien elle est juste et vraie. Il faut la recevoir en reconnaissant son autorité divine et la laisser opérer dans la conscience, afin d'abandonner le mal qu'elle dévoile. Car si nous nous plaçons du côté de Dieu pour résister au mal qui est dans notre propre cœur, il donne la force nécessaire pour en être délivré. Rien de plus dangereux que d'écouter la parole sans la mettre en pratique. C'est ainsi que le cœur s'endurcit et se soumet à la puissance de l'ennemi. Hérodias, plus criminel qu'Hérode, n'aurait pas écouté Jean comme lui. Cependant, l'état de l'un et de l'autre, quant au résultat éternel, est exactement le même. Hélas, combien de personnes qui auront même pris plaisir à entendre la parole de Dieu, qui auront admis combien elle était juste et sainte, et qui se trouveront avec les moqueurs et les incrédules dans les ténèbres de dehors, là où sont les pleurs et les grincements de dents, parce qu'elles n'auront pas cru. La parole qu'ils entendirent ne leur servit de rien, n'étant pas mêlée avec de la foi dans ceux qui l'entendirent. Hébreux 4, verset 2. Hérode entend parler de la renommée de Jésus. Aussitôt la conscience accablée par la mort d'un juste, il dit à ses serviteurs, « C'est Jean le baptiseur, il est ressuscité des morts, et c'est pourquoi les miracles s'opèrent par lui. » Versets 1 et 2. Hérode croyait-il à la résurrection jusque-là? On ne peut le dire, car on voit les Hérodiens assimilés quant à leur doctrine aux Sadducéens qui niaient la résurrection. Chapitre 16, verset 6.
Jésus leur dit, « Voyez, et soyez en garde contre le levain des pharisiens et des sadducéens. »
Marc 8, verset 15.
Il leur enjoignit, disant, « Voyez, gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. »
Mais la conscience ne permet pas à l'homme de contredire la vérité qu'autant qu'il croit que Dieu est loin ou qu'il n'est pas. Mais dès que se produit un fait extraordinaire, il perd son assurance, il se trouble, sa conscience l'accuse et le fait trembler. Que sera-ce, lorsque dépouillé de tous ses vains raisonnements, comme de tout ce par quoi il aura cru se soustraire à la lumière de Dieu ici-bas, l'homme se trouvera nu, c'est-à-dire tel que Dieu le voit dans son état naturel, chargé de ses péchés, devant la lumière éclatante du grand trône blanc, où il ne sera plus question de grâce ni de pardon. Multiplication des pains, versets 13 à 21.
Lecture de la parole. Et Jésus, l'ayant entendu, se retira de là dans une nacelle en un lieu désert à l'écart. Et les foules, l'ayant appris, le suivirent à pied des différentes villes. Et étant sorti, il vit une grande foule, et il fut ému de compassion envers eux, et il guérit leurs infirmes. Et le soir étant venu, ses disciples vinrent à lui disant, « Le lieu est désert, et l'heure est déjà passée. Renvoie les foules afin qu'elles s'en aillent au village et qu'elles s'achètent des vivres. » Et Jésus leur dit, « Il n'est pas nécessaire qu'elles s'en aillent. Vous, donnez-leur à manger. » Mais ils lui disent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi ici. » Et ayant donné l'ordre aux foules de s'asseoir sur l'herbe, ayant pris les 5 pains et les 2 poissons, il regarda vers le ciel et bénit. Et ayant rompu les pains, il les donna aux disciples, et les disciples aux foules. Et ils mangèrent tous et furent rassasiés. Et ils ramassèrent des morceaux qui étaient de reste, 12 paniers pleins. Or ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, outre les femmes et les enfants.
Lecture de l'étude. Ayant enlevé de la prison le corps de leur maître, les disciples de Jean l'ensevelirent et vinrent rapporter à Jésus ce qui s'était passé. Jésus, l'ayant entendu, se retira de là dans une nacelle en un lieu désert à l'écart. Quel effet pénible la mort de Jean dut produire sur le cœur du Seigneur. La croix projetait déjà son ombre sur ce chemin de douleur, car si la haine de l'homme s'était montrée telle envers le précurseur du Christ, elle se montrerait plus implacable encore contre celui qui était la lumière du monde, jusqu'à ce qu'il fût cloué sur la croix. Jésus se retire à l'écart en un lieu désert, image de ce monde pour le cœur de Christ, comme pour le croyant. Il n'y trouve que le péché et une haine mortelle contre la lumière et l'amour. Qui pourrait décrire la souffrance continuelle produite par la connaissance de l'état de l'homme dans le cœur de Jésus, qui sentait toutes choses selon ses perfections divines et humaines. C'est pour venir nous délivrer qu'il a bien voulu quitter la gloire, afin de subir, de la main des hommes, les douleurs, la mort. Apprenant le départ du Seigneur, les foules le suivirent à pied. Quand il les vit, ému de compassion envers elles, il guérit leurs infirmes. L'amour infatigable de Jésus ne peut trouver de repos pendant que l'homme traîne après lui les maux que le péché a introduits dans ce monde. Mais le Seigneur est seul pour satisfaire aux besoins de la foule, et seul il pouvait le faire, car en lui se trouvait toute ressource, alors comme aujourd'hui. Les disciples lui conseillent de renvoyer les foules, afin qu'elles pourvoient elles-mêmes à leurs besoins. Ils font valoir d'excellentes raisons pour cela, l'heure tardive, la solitude des lieux. La nuit, le désert, l'heure passée, c'est ce qui caractérise l'état d'Israël et de ce monde qui a rejeté Christ. La lumière rejetée, le soir du jour où elle avait lui était arrivée, sans que l'homme en eût profité, l'heure était passée. Le désert, c'est ce que le monde peut fournir en fait de ressources pour sortir l'homme de sa misère, lui donner la vie et alimenter cette vie. Mais, grâce à Dieu, le Christ rejeté, encore là, toujours le même, veut non seulement rassasier ses foules, mais apprendre aux disciples à profiter de sa puissance, car le soir était venu. Il allait les quitter et les laisser seuls dans le désert de ce monde, où ils auraient encore à répondre à beaucoup de besoins dans l'accomplissement de leur ministère. Jésus leur dit, « Il n'est pas nécessaire qu'elles s'en aillent. Vous, donnez-leur à manger. » Mais ils lui disent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi ici. » Les disciples n'avaient de nourriture que pour eux-mêmes, mais le Seigneur veut qu'ils se servent de ce qu'ils possèdent et le donnent eux-mêmes aux foules après le lui avoir apporté. Le fait important dans l'accomplissement de ce service, c'est d'apporter au Seigneur ce qu'ils ont. Jésus prend de leurs mains les 5 pains et les 2 poissons et, regardant vers le ciel, il bénit. C'est la bénédiction du Seigneur qui rend efficace ce que nous possédons pour le faire servir aux besoins d'autrui. Puis Jésus rompit les pains et les fit distribuer par les disciples aux 5000 hommes, outre les femmes et les enfants qui se trouvaient là. Il y eut même 12 paniers pleins de restes. Nous voyons que, selon la pensée de Dieu, l'ordre et l'économie sont inséparables de l'abondance. Avoir des biens à profusion n'est pas une raison pour en laisser perdre ou agir avec prodigalité. Il faut soigner ce qui ne nous est pas nécessaire, afin de pouvoir faire du bien à d'autres. Tandis que l'avare économise pour satisfaire son égoïsme, l'amour, qui est l'opposé de l'égoïsme, rend soigneux pour pouvoir faire du bien. Par cette multiplication des pains, le Seigneur veut montrer à son peuple qu'il est celui dont David avait parlé au psaume 132, verset 15, disant « Je bénirai abondamment ses vivres, je rassasirai de pain ses pauvres », paroles qui auront leur plein accomplissement lors du règne glorieux du Messie. Ce règne ne pouvant s'accomplir alors, par suite du rejet de Christ, le Seigneur veut apprendre à ses disciples qu'ils posséderaient en lui toutes les ressources nécessaires à leur service, en l'absence de leur maître, ressources toujours à la portée de la foi pour tous les temps, pour tous les besoins et pour chaque croyant. Si le Seigneur nous confie un service quelconque, nous sentons immédiatement notre insuffisance pour l'accomplir. Mais il nous dit, comme aux disciples, « Apportez-les-moi », et ce peu que nous possédons, il le bénit, de sorte qu'il peut sortir de nos mains multiplié supérieur à tous les besoins. C'est une grâce merveilleuse que d'en faire l'expérience encore maintenant. Si par exemple un croyant, quoique jeune encore, se sent appelé à parler du Seigneur à un de ses camarades, malade ou même en bonne santé, il dira peut-être « Je suis ignorant des choses de Dieu, je n'ai pas l'habitude d'en parler, cela me gêne ». Cependant, il connaît quelque chose de la grâce merveilleuse de Jésus. Il n'a qu'à aller au Seigneur, à placer devant lui, par la prière, le peu qu'il a, et, le recevant du Seigneur et non de sa pauvre connaissance, il pourra aller le donner. Il fera la même expérience que les disciples lors de la multiplication des pains. Le même principe s'applique à tout ce que nous avons à faire. Il faut se servir de ce que l'on a et ne pas attendre d'avoir davantage pour faire le bien qui est placé devant soi. Il faut compter sur le Seigneur qui veut bénir les ressources limitées comme les plus abondantes. L'apôtre Paul dit « On est agréable selon ce qu'on a » de Corinthiens 8, verset 12. Tel disperse et augmente encore, et tel retient plus qu'il ne faut, mais n'en a que disette. L'âme qui bénit sera engraissée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbe 11, versets 24 et 25. Jésus sur la montagne, versets 22 et 23.
Lecture de la parole. Et aussitôt il contraignit les disciples de monter dans la nacelle et de le précéder à l'autre rive, jusqu'à ce qu'il eût renvoyé les foules. Et quand il eut renvoyé les foules, il monta sur une montagne à l'écart pour prier. Et le soir étant venu, il était là, seul.
Lecture de l'étude. Après cela, le Seigneur contraignit les disciples de monter dans une nacelle et de le précéder de l'autre côté du lac de Génézareth, pendant qu'il renvoyait les foules, versets 22-23. Comme toujours dans les Écritures, le récit que rapporte l'écrivain inspiré contient un enseignement figuré qui dépasse de beaucoup les faits historiques, tout intéressant qu'il soit. C'est ce que nous pouvons remarquer tout particulièrement dans ce chapitre. Nous avons déjà vu que c'était le soir du jour où le Seigneur se trouvait au milieu de son peuple. En conséquence de son rejet, Jésus renvoie les foules, figure du peuple, après avoir accompli les signes qui devaient faire reconnaître en lui le Messie promis. En même temps, il contraint ceux qu'il avait reçus, les disciples, à le précéder, c'est-à-dire à se mettre en chemin sans lui, pour traverser ce monde, jusqu'à la rive bienheureuse où ils jouiront des glorieuses bénédictions que le Seigneur leur apportera lorsqu'il les aura rejoints. Quant à lui, il monte sur une montagne où il est seul pour prier, figure de la position que Christ a prise. Il est monté au ciel pour s'occuper de ceux qui, en attendant son retour, traversent la nuit orageuse de ce monde. Toujours vivant pour intercéder en faveur des siens, connaissant les dangers d'un chemin qu'il a parcouru, il peut secourir au moment opportun ceux qui y passent après lui. Tel est le service de la sacrificature de Christ présenté dans l'Épître aux Hébreux.
Les disciples dans la tempête, versets 24 à 36. Lecture de la parole. Or la nacelle était déjà au milieu de la mer, battue par les vagues, car le vent était contraire. Et à la quatrième veille de la nuit, il s'en alla vers eux, marchant sur la mer. Et les disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés, disant « C'est un fantôme !» Et ils crièrent de peur. Mais Jésus leur parla aussitôt, disant « Ayez bon courage, c'est moi, n'ayez point de peur !» Et Pierre lui répondant dit « Seigneur, si c'est toi, commande-moi d'aller à toi sur les eaux !» Et il dit « Viens !» Et Pierre, étant descendu de la nacelle, marcha sur les eaux pour aller à Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, disant, « Seigneur, sauve-moi !» Et aussitôt Jésus, étendant la main, le prit et lui dit, « Homme de petite foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la nacelle, le vent tomba, et ceux qui étaient dans la nacelle vinrent et lui rendirent hommage, disant, « Véritablement, tu es le Fils de Dieu !» Et ayant passé à l'autre rive, ils vinrent dans la contrée de Génézareth, et les hommes de ce lieu-là, l'ayant reconnu, envoyèrent dans tout le pays d'alentour, et on lui apporta tous ceux qui se portaient mal, et ils le priaient de les laisser toucher seulement le bord de sa robe, et tous ceux qui le touchèrent furent complètement guéris.
Lecture de l'étude. Dans les versets 24 à 33, nous avons un autre tableau de la situation des disciples en l'absence de Jésus. Le vent contraire, soulevant les vagues qui menacent de les engloutir, est une figure de l'opposition violente que suscite l'ennemi, surtout par la persécution contre les croyants. Elle atteignit les disciples après le départ de leur maître. Le futur résidu d'Israël la rencontrera aussi lorsqu'il traversera la terrible tribulation de la faim. Elle ne cessera qu'au moment où Jésus, venant en gloire, calmera par sa puissance la tempête suscitée par Satan. En attendant, nous pouvons nous appliquer les précieux enseignements contenus dans ce récit, car nous traversons aussi la nuit morale dans laquelle se trouve le monde où la puissance de Satan se fait sentir, où il y a pour tous des moments d'épreuve qui peuvent bien être comparés à une tempête. Nous savons ainsi qu'au-dessus de tout se trouve le Seigneur dans la gloire. Toujours occupé de ceux qui sont dans les difficultés quelconques, il fait entendre sa voix au moment opportun, rassurant les siens, les encourageant par sa parole, nous disant aussi « C'est moi, n'ayez point de peur ». Il connaissait l'angoisse des disciples lorsque, à la quatrième veille de la nuit, il alla vers eux marchant sur les eaux. Jésus sait aussi quelles sont les afflictions par lesquelles nous passons, car, en ce qu'il a souffert lui-même étant tenté, il est à même de secourir ceux qui sont tentés, Hébreux 2, verset 18. Mais il nous arrive souvent de méconnaître son intervention et d'être alarmés au lieu de voir sa bonne main dans l'épreuve, comme les disciples qui prirent Jésus pour un fantôme lorsqu'il s'approchait d'eux. Puissions-nous tous être assez occupés de lui pour le discerner en toutes circonstances. Quand Pierre entendit la voix de Jésus, il lui dit, « Seigneur, si c'est toi, commande-moi d'aller à toi sur les eaux. » Jésus lui répondit, « Viens. » Alors Pierre descendit de la nacelle et marcha sur les eaux pour aller à Jésus. Combien grande est la puissance de la parole du Seigneur. Pierre n'a jamais marché sur les eaux. Aucun homme ne saurait le faire, mais il voit que le Seigneur le peut, et il le connaît assez pour savoir que, s'il lui commande d'aller à lui, il le soutiendra. Souvenons-nous que le Seigneur donne toujours la capacité d'exécuter ce qu'il nous commande. Nous pouvons compter sur lui pour nous fournir ce qui est nécessaire pour lui obéir, tout insurmontable que paraissent les difficultés. Mais il faut avoir une pleine foi en sa parole et ne pas regarder aux circonstances, car, dans le chemin de l'obéissance, les difficultés subsistent. Les disciples avaient obéi au Seigneur en s'embarquant pour l'autre rive. La tempête fut permise afin qu'ils apprissent à mieux connaître leur Seigneur. Après avoir marché un moment, Pierre enfonça, car ses regards étaient dirigés sur l'orage au lieu d'être fixés sur celui qui lui avait dit « Viens ». Voyant la violence du vent, il eut peur. Mais quelle grâce dans la personne de Jésus! À l'appel de Pierre qui s'écrie « Seigneur, sauve-moi », il étendit la main et le prit, lui disant « Homme de petite foi, pourquoi tu doutais ?» Le Seigneur a la puissance de nous faire marcher sans broncher si nous regardons à lui par la foi. Et si nous enfonçons, faute d'avoir tenu nos regards fixés sur lui, sa main puissante est prête à nous secourir quand nous crions à lui dans la détresse. Il est précieux d'en faire l'expérience. Mais le Seigneur est bien plus glorifié lorsque nous comptons sur lui sans faillir et que nous réalisons quelque peu la puissance par laquelle il a marché lui-même dans ce chemin d'obéissance. Il ne se préoccupait que d'accomplir la volonté de son Père. Dès que le Seigneur eut délivré Pierre, ils rejoignirent les disciples restés dans la nacelle et le vent tomba. Et ceux qui étaient dans la nacelle vinrent et lui rendirent hommage, disant « Véritablement, tu es le Fils de Dieu. » Dans cette circonstance, Pierre représente l'Église qui, à l'appel du Seigneur, s'est acheminée au-devant de lui par la foi. Hélas, comme Pierre, elle a enfoncé à cause de son incrédulité parce qu'elle a perdu de vue son Seigneur, mais il la prendra à lui par sa puissante grâce. Puis le Seigneur rejoindra le résidu d'Israël que représentent les disciples. Le vent de la puissance de Satan, qui aura soufflé contre eux d'une manière effroyable, tombera, et le résidu juif reconnaîtra Jésus comme étant véritablement le Fils de Dieu, titre sous lequel les Juifs refusèrent de le reconnaître lorsqu'il était au milieu d'eux en grâce. Ils demandèrent à Pilate sa mort parce que, disait-il, il s'est fait Fils de Dieu. Jean 19, verset 7.
Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi. » Et selon notre loi, il doit mourir, car il s'est fait Fils de Dieu.
Quelle preuve de l'inspiration divine nous avons dans ce simple récit. En quelques mots, dans une courte narration, l'Esprit de Dieu nous donne un résumé de toute l'histoire des Juifs et de l'Église, depuis l'ascension du Seigneur jusqu'à son retour en gloire, et de ce qu'il est pour les siens pendant ce temps. Les versets 34 à 36 complètent ce merveilleux tableau, en nous montrant le Seigneur reconnu par les hommes de la contrée de Génézareth. Ils l'avaient prié de se retirer de leur territoire quand il y vint, lors de la guérison du démoniaque. Matthieu 8, 34.
Et voici toute la ville sortit au devant de Jésus, et l'ayant vu, ils le prièrent de se retirer de leur territoire.
C'est ce qui aura lieu lors de la venue de Christ pour la délivrance du résidu pieux. Tous ceux qui le recevront seront au bénéfice de sa puissante bonté pour être guéris et jouir des temps de paix et de repos qu'il établira par sa présence. N'oublions pas que la part de ceux qui auront cru au Seigneur et l'auront suivi pendant son rejet sera infiniment plus belle que la part de ceux qui ne croiront que lorsqu'ils le verront. C'est ce que le Seigneur dit à Thomas, « Bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru » Jean 20, verset 29. Puissions-nous tous lui dire de cœur aujourd'hui, « Viens, Seigneur Jésus !»